France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. En vain, le jour succédera au jour, et un seul être manquant dépeuplera notre univers. La poésie, la prose, il était temps, le 17 juillet 1981, de relire, et convenablement, Lamartine. Lamartine, dont chacun d'entre nous connaît au moins un vers, fût-ce sans savoir qu'il en est l'auteur. L'écrivain, le poète, mais aussi l'homme politique, dont les interventions au Parlement pouvaient tout aussi bien être consacrées au sucre, au chemin de fer, qu'aux questions d'Orient ou aux fortifications de Paris. Écrire et se préparer au pouvoir, le perdre, ce pouvoir, très vite, s'occuper de ses vignes, de ses terres, et lancer des souscriptions pour ses propres rééditions. Relecture, Lamartine, par Hubert Juin, première diffusion sur France Culture, le 17 juillet 1981.
Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Alphonse de Lamartine, avec la participation de Marius-François Guyard et Jean-Michel Gardère. Texte lu par Guy Tréjean et Jean Negroni. Réalisation Anne Lemaître.
Souvent, sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement, je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes, il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon, et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, s'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête, et la cloche rustique au dernier bruit du jour mêle de saints concerts. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante. Le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en colline, en vain portant ma vue, du sud à l'aquilon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue, et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, vains objets dont pour moi le charme est envolé, fleuves, rochers, forêts, solitude si chère, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Que le tour du soleil commence ou s'achève d'un œil indifférent, je le suis dans son cours. En un ciel sombre ou pur, qu'il se couche ou se lève, qu'importe le soleil, je n'attends rien des jours. Quand je pourrai le suivre en sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le vide et les déserts. Je ne désire rien de tout ce qu'il éclaire. Je ne demande rien à l'immense univers. Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, lieux où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire. Là, je retrouverai et l'espoir et l'amour et ce bien idéal que toute âme désire et qui n'a pas de nom au terrestre séjour. Que ne puis-je porter sur le char de l'aurore, vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi? Sur la terre d'exil, pourquoi restais-je encore? Il n'est rien de commun entre la terre et moi. Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, le vent du soir s'élève et l'arrache au vallon. Et moi, je suis semblable à la feuille flétrie. Emportez-moi comme elle, orageuse Aquilon.
Cette voix, je veux dire cette poésie, je veux dire cette musique du verbe, on l'a reconnue. C'est un poème de Lamartine. Et ce poème s'appelle « L'isolement ». Bon, j'ai choisi de commencer cette émission par l'isolement, d'abord parce que c'est un poème très connu, j'espère du moins. Ensuite, c'est un poème qui est très significatif d'une manière de Lamartine, mais nous verrons au cours de cette émission qu'il y a plusieurs manières dans l'œuvre poétique de Lamartine. Et ensuite, l'isolement, bien c'est peut-être un peu la situation de Lamartine, et singulièrement la situation de Lamartine encore à notre époque. Tout se passe comme si on ne lisait pas Lamartine, et pourtant, Marius-François Guihard, qui a publié les œuvres poétiques complètes de Lamartine aux éditions de la Pléiade chez Gallimard, me disait, hors micro, il va le préciser, et qu'il en est déjà, je crois, à la sixième édition successive des œuvres poétiques complètes de Lamartine. Donc, Lamartine est lu. Nous consacrons la présente émission de relecture à Lamartine, parce qu'il y a bien sûr cette édition de la Pléiade, mais surtout en livre au format de poche, c'est-à-dire très accessible. Marius-François Guihard vient d'éditer dans la collection Poésie Gallimard, au format de poche, donc, de Lamartine, les méditations poétiques, les nouvelles méditations poétiques, au complet, suivies d'un choix d'œuvres, de poèmes précisément, soit pris des harmonies, soit du cours familier même, soit des œuvres complètes, enfin des œuvres de souscription. Et cela donne, à mon humble avis, une idée quand même très complète de Lamartine. D'autre part, dans la collection Folio, toujours chez Gallimard, Jean-Michel Gardère nous a donné une version de Graziella. Graziella, bien sûr, on le sait, c'était le grand succès de Lamartine, et c'est un livre qui continue, celui-là peut-être, à avoir était non pas mieux lu, mais peut-être avoir duré un peu plus longtemps. Je veux dire, et nous le verrons au cours de cette émission, que même quelqu'un comme Pierre Macorlan a écrit un poème, mis en musique et chanté par Monique Morelli, où il est question de Procida et de sa marine. Enfin, donc, vraiment, il avait lu Graziella pour pouvoir écrire ça. Et ensuite, mais ça, je l'indique comme ça en passant, il y a quand même Tristan Corbière, n'est-ce pas, qui écrit un poème, alors assez méchant, lui, hein, par contre, à propos de Graziella, et plutôt du mensonge, comme il dit, presque, de Lamartine.
Ischia, qui sépare le golfe de Gaété du golfe de Naples, et qu'un étroit canal sépare elle-même de l'île de Procida, n'est qu'une seule montagne à pic dont la cime blanche et foudroyée plonge ses dents ébréchées dans le ciel. Ses flancs abrupts, creusés de vallons, de ravines, de lits de torrents, sont revêtus de haut en bas de châtaigniers d'un vert sombre. Ces plateaux les plus rapprochés de la mer et inclinés sur les flots portent des chaumières, des villas rustiques et des villages à moitié cachés sous les treilles de vignes. Chacun de ces villages a sa marine. On appelle ainsi le petit port où flottent les barques des pêcheurs de l'île et où se balancent quelques mâts de navires à voile latine. Les vergues touchent aux arbres et aux vignes de la côte. Il n'y a pas une de ces maisons suspendues aux pentes de la montagne, cachées au fond de ces ravins, pyramidant sur un de ces plateaux, projetées sur un de ces caps, adossées à son bois de châtaignier, ombragées par son groupe de pins, entourées de ces arcades blanches et festonnées de ces treilles pendantes, qui ne fût en songe la demeure idéale d'un poète ou d'un amant. Nos yeux ne se lassaient pas de ce spectacle. La côte abondait en poissons, le pêcheur avait fait une bonne nuit. Nous abordâmes à une des petites anses de l'île pour puiser de l'eau à une source voisine et pour nous reposer sous les rochers. Au soleil baissant, nous revînmes à Naples, couchés sur nos bancs de rameurs. Une voile carrée, placée en travers d'un petit mât sur la proue, dont l'enfant tenait l'écoute, suffisait pour nous faire longer les falaises de Procida et du cap Misène et pour faire écumer la surface de la mer sous notre esquif. Le vieux pêcheur et l'enfant, aidés par nous, tirèrent leur barque sur le sable et emportèrent les paniers de poissons dans la cave de la petite maison qu'ils habitaient sous les rochers de la Margellina.
Je voudrais préalablement, Marius François Guillard, que vous nous racontiez brièvement la Martinique, comme si nous n'en savions rien.
Eh bien, je commencerai en disant deux dates et je n'en ajouterai qu'une troisième. Les deux dates, c'est sa naissance, sa mort, 1790-1869. La date de naissance est importante. La Martinique est née sous la Révolution, dans une famille de petite noblesse, du Mâconnais, Bourgogne. Et il faut bien se rendre compte qu'il est très nettement l'aîné de la plupart des poètes romantiques qui sont souvent nés après 1800, voire en 1810, comme Musset.
Oui, et Hugo, 1802.
Voilà, ce siècle avait deux ans. Oui. Lamartine a donc été élevé dans le style de ce type de famille. Il a été élève des jésuites à Belley, dans l'Ain. Et puis il a mené une vie désœuvrée, étant jeune homme, parce que sa famille, très attachée au roi, ne voulait pas qu'il servît l'empereur. La vie active de Lamartine commence donc avec la Restauration. Et à ce moment-là, Lamartine est politiquement un modéré. Au début, il est contre la Chambre introuvable de Louis XVIII, mais il va évoluer politiquement vers l'extrême droite, sous l'influence d'un homme redoutable, le vicomte de Bonald, qu'il rencontre dans le salon de Julie Charles. Julie Charles, c'est celle qui, aux yeux du plus grand public, était la vraie Elvire, celle à qui s'adresse beaucoup de méditations. En réalité, nous aurons l'occasion de leur dire, Lamartine a le goût du général, qui ne vise pas à l'anecdotique, du moins dans un premier temps de sa vie, et Elvire, c'est le nom qu'il donne au moins à trois des femmes qu'il a aimées, celle qui devait devenir Graziella plus tard, Madame Charles donc, qu'il a rencontrée au bord du lac du Bourget, et plus tard, sa propre femme, une Anglaise, Marianne Birch. Lamartine a donc percé en 1820, et c'est une année capitale pour lui, parce qu'il publie son premier recueil poétique, celui auquel on l'identifie encore souvent aujourd'hui, les Méditations. C'est l'année où, enfin, il trouve une situation, il entre dans la diplomatie. Et enfin, c'est l'année où il se marie. Et j'ai eu tort de dire enfin, car c'est aussi l'année où il se convertit, où il revient du libertinage de sa jeunesse à la foi de son enfance, par un acte d'ailleurs de volonté, probablement plus que d'adhésion vraiment intellectuelle. À partir de là, Lamartine est donc un jeune diplomate, heureux, royaliste, père de deux enfants. Il séjourne de nouveau en Italie, à Naples, à Florence. Et à la Révolution de 1830, il démissionne de la carrière diplomatique avec une arrière-pensée, car il y a beaucoup d'arrière-pensée chez Lamartine. Il met cette démission sous le signe de la fidélité à la branche aînée, donc à Charles X, dont il a pourtant condamné formellement la politique. Et en réalité, son arrière-pensée, c'est qu'il veut se rendre libre pour entrer lui-même en politique. Et pendant toute la monarchie de Juillet, de 1833 exactement à 1848, Lamartine sera un député. Je vois que j'ai violé ma parole et que j'ai déjà cité probablement 5 dates et non pas 3.
Oui, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que, notamment sur ce plan-là, enfin sur le plan de la députation chez Lamartine, parce que, bon, il est député, mais il pousse aussi les autres à vouloir l'être.
Oui.
Très paradoxalement, Victor Hugo. Or, Victor Hugo, non seulement il n'est pas éligible, mais même il n'est pas électeur dans le vote censitaire. Enfin, alors, il y a une sorte de... Comme ça, Lamartine peut pousser ses amis à rentrer dans la carrière politique.
Oui, l'agneau murmure encore le doux nom de scintille au rocher de Tibur. Vaucluse a retenu le nom chéri de l'or et Ferrare, au siècle futur, murmurera toujours celui d'Éléonore. Heureuse la beauté que le poète adore, heureux le nom qu'il a chanté. Toi qu'en secret son culte honore, tu peux mourir. Dans la postérité, il lègue à ce qu'il aime une éternelle vie, et l'amante et l'amant sur l'aile du génie montent d'un vol égal à l'immortalité. Ah, si mon frêle esquif, battu par la tempête, grâce à des vents plus doux, pouvait surgir au port. Si des soleils plus beaux se levaient sur ma tête, si les pleurs d'une amante attendrissant le sort écartaient de mon front les ombres de la mort. Peut-être... Oui, pardonne, ô maître de la lyre, peut-être j'oserais, et que n'ose un amant, égaler mon audace à l'amour qui m'inspire et dans des chants rivaux célébrant mon délire de notre amour aussi laisser un monument. Ainsi le voyageur qui, dans son court passage, se repose un moment à l'abri du vallon sur l'arbre hospitalier dont il goûte à l'ombrage avant que de partir, aime à graver son nom. Vois-tu comme tout change ou meurt dans la nature? La terre perd ses fruits, les forêts leur parure, le fleuve perd son onde au vaste sein des mers. Par un souffle des vents, la prairie est fanée, et le char de l'automne au penchant de l'année roule, déjà poussé par la main des hivers. Comme un géant armé d'un glaive inévitable, atteignant au hasard tous les êtres divers, le temps avec la mort d'un vol infatigable renouvelle en fuyant ce mobile univers. Dans l'éternel oubli tombe ce qu'il moissonne. Tel un rapide été voit tomber sa couronne dans la corbeille des glaneurs. Tel un pampre jauni voit la féconde automne livrer ses fruits dorés au char des vendangeurs. Vous tomberez ainsi, courte fleur de la vie. Jeunesse, amour, plaisir, fugitive beauté, beauté. Présent d'un jour que le ciel nous envie, ainsi vous tomberez, si la main du génie ne vous rend l'immortalité. Vois d'un œil de pitié la vulgaire jeunesse, brillante de beauté, s'enivrant de plaisir, quand elle aura tari sa coupe en chanteresse, que restera-t-il d'elle? À peine un souvenir. Le tombeau qui l'attend l'engloutit tout entière. Un silence éternel succède à ses amours. mais les siècles auront passé sur ta poussière, Elvire, et tu vivras toujours.
Alors, tout le monde sait que Lamartine, qui entre-temps avait publié Les Harmonies, qui a publié Josselin en 1836, qui a publié Le Voyage en Orient, tout le monde sait que Lamartine est l'homme qui, dressé sur une chaise en 1848, a repoussé le drapeau rouge. Mais la plupart de nos contemporains s'imaginent que ce poète, car on le voit et on a raison, en un sens essentiellement comme un poète, était là par hasard. Or, en fait, ça faisait, c'est pourquoi j'ai cité cette date tout à l'heure, ça faisait 15 ans qu'il se préparait à prendre le pouvoir. Et quand on regarde les sujets que Lamartine a traités au Parlement, ce ne sont pas du tout des sujets poétiques. C'est par exemple les chemins de fer, ou le sucre, ou les fortifications de Paris, ou la question d'Orient. Et ce sont des discours fort documentés, une fois qu'on fait la part de la rhétorique qui était à ce moment-là de mise dans l'éloquence parlementaire. Donc il s'est préparé au pouvoir, mais en un sens, à peine l'a-t-il eu qu'il l'a perdu. Une popularité immense, car les gens d'ordre ont vu en lui un sauveur, suivi d'une impopularité marquée par le score absolument lamentable.
Oui, parce que ça, c'est frappant. Il a la réputation, la dernière fois, enfin, donc, après les événements, il récolte 1 million de voix, quelque chose comme
1 600 000.
1 600 000 voix, et pour la présidence...
17 000. 17 000 sur toute la France. Yeah. C'était la première fois que la France élisait un président suffrage universel, et l'élu, ce fut quelqu'un qui était mis à part son nom obscur au début de l'année, qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, à partir de là, Lamartine... est tout à fait ruiné. Vous aviez cité tout à l'heure Hubert Juin, Victor Hugo. Il y a un beau contraste du point de vue de l'argent entre les deux hommes. L'un, parti de rien, Victor Hugo, a terminé 7 à 8 fois millionnaire en francs or. L'autre, parti d'une très belle fortune, avait en 1848-1850 environ 5 millions de francs or de dette. À sa mort, 20 ans plus tard, il avait réduit le chiffre de moitié grâce à ce qu'on a appelé les travaux forcés littéraires. Toutes les éditions, toutes les histoires, toute la littérature plus ou moins alimentaire qu'il a produite et qui s'est malgré tout vendue puisqu'elle lui a rapporté des sommes très très importantes.
Et là, on peut faire un autre parallèle à Marius-François Guihard avec quelqu'un du temps aussi, n'est-ce pas, c'est Chateaubriand, car il leur arrive la même chose, ce sont les fameuses éditions de souscripteurs.
C'est ça.
Et Chateaubriand lui aussi arrive... à la misère.
Et je crois que l'édition des souscripteurs que Lamartine a lancée en 1849-50, au lendemain de son échec politique, c'était évidemment pour lui un moyen de faire de l'argent, et de le faire honnêtement. Il a donc eu l'idée d'être lui-même son éditeur. Et ça va nous ramener à la littérature, non seulement parce que c'est une édition littéraire, mais parce que c'est là, au fond, qu'est définitivement née, et pour durer jusqu'aujourd'hui, la légende lamartinienne. Car pour appâter les acheteurs, Lamartine avait déjà publié non seulement beaucoup de recueils, mais beaucoup de fois déjà ce qu'on appelait des œuvres complètes. Il fallait donc leur offrir du nouveau. Alors pour leur offrir du nouveau, Lamartine a d'une part trouvé dans ses portefeuilles un certain nombre de poèmes inédits. Il les a astucieusement répartis entre plusieurs volumes pour qu'il n'y ait pas un seul volume qui eût l'attrait du nouveau. Et d'autre part, il a annoncé, et il a tenu parole, que chaque poème serait assorti d'un commentaire. Et ces commentaires qui se fourmillent d'erreurs historiques, mais où il y a toujours quelque chose de vrai derrière, sont toujours du type anecdotique. En marge d'une méditation, il écrira quelque chose comme, je fais une sorte de portrait robot, si je puis dire, du commentaire lamartinien. J'étais cette année-là aux eaux de Cassiano en Toscane. La princesse, mettons Borghese, était passée nous voir. Cette admirable femme d'une piété exemplaire me... demanda ce que je pensais de Dieu et je lui répondis dans les termes suivants, et ainsi de suite. Tous les commentaires sont de ce style, et d'où la tendance à considérer Lamartine comme un poète qui se raconte, qui, comme on le dit familièrement aujourd'hui, raconte sa vie, et dont la poésie serait en somme une sorte de journal rimé, alors que c'est tout autre chose, et que le lecteur qui lisait les premières méditations qui ont eu un succès prodigieux en 1820 dont j'estime que le test le plus frappant, c'est l'engouement, c'est peu dire, qu'elles ont suscité chez un homme aussi blasé que Talleyrand, qui a passé une nuit entière à lire et à relire ce petit recueil de 24 poèmes, et qui a exprimé son admiration, et qui a prédit à Lamartine un grand destin poétique, comme plus tard il lui a prédit un grand destin politique. Eh bien, quand le lecteur 1820 ouvrait ce petit recueil de 24 poèmes, il y trouvait, sauf ses intimes, il n'y trouvait pas du tout le récit rimé de la vie de Lamartine, il y trouvait des poèmes qui chantaient les grands problèmes de l'homme, Dieu, l'amour, la souffrance, la séparation.
Notre crime est d'être homme et de vouloir connaître. Ignorer et servir, c'est la loi de notre être. Byron, ce mot est dur. Longtemps j'en ai douté. Mais pourquoi reculer devant la vérité? Ton titre devant Dieu, c'est d'être son ouvrage, de sentir, d'adorer ton divin esclavage. Dans l'ordre universel, faible atome emporté, d'unir à ses desseins ta libre volonté, d'avoir été conçu par son intelligence, de le glorifier par ta seule existence. Voilà, voilà ton sort. Ah, loin de s'accuser, baise plutôt le joug que tu voudrais briser, descends du rang des dieux qu'usurpait ton audace. Tout est bien, tout est bon, tout est grand à sa place. Au regard de celui qui fit l'immensité, l'insecte vaut un monde. Ils ont autant coûté. Mais cette loi, dis-tu, révolte ta justice. Elle n'est à tes yeux qu'un bizarre caprice, un piège où la raison trébuche à chaque pas. Confessons-la, Byron, et ne la jugeons pas. Comme toi, ma raison en ténèbres abonde, et ce n'est pas à moi de t'expliquer le monde. Que celui qui l'a fait explique l'univers, plus je sonde l'abîme, hélas, plus je m'y perds. Ici-bas, la douleur à la douleur s'enchaîne, le jour succède au jour, et la peine à la peine. Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Soit que, déshérité de son antique gloire, de ses destins perdus il garde la mémoire, soit que de ses désirs l'immense profondeur lui présage de loin sa future grandeur, imparfait ou déchu, l'homme est le grand mystère. Dans la prison des sens, enchaîné sur la terre, esclave, il sent un cœur né pour la liberté. Malheureux, il aspire à la félicité. Il veut sonder le monde, et son œil est débile. Il veut aimer toujours. Ce qu'il aime est fragile. Tout mortel est semblable à l'exilé d'Éden. Lorsque Dieu l'eut banni du céleste jardin, mesurant d'un regard les fatales limites, il s'assit en pleurant aux portes interdites. Il entendit de loin, dans le divin séjour, l'harmonieux soupir de l'éternel amour, les accents du bonheur, les saints concerts des anges qui, dans le sein de Dieu, célébraient ses louanges, et, s'arrachant du ciel dans un pénible effort, son œil avec effroi retomba sur son sort.
Alors revenons, si vous voulez bien, à ce, quand même, c'est pas, à cette image de Lamartine. Car il est évident aussi, vous avez dit, qu'est-ce qu'on retient de Lamartine? Ben, c'est l'homme qui repousse le drapeau rouge en 48 debout sur une chaise. C'est aussi les cheveux au vent, au bord du fameux lac, mais nous allons revenir au lac. C'est l'homme éthéré. Or, Jean-Michel Gardet, on sent bien quand même que ce n'est pas ça.
À l'image de Lamartine, je crois qu'il faut ajouter les lévriers, le lévrier du célèbre portrait, et ce corps évanescent, lymphatique aussi, un corps un peu à la Gainsborough, dont l'exposition de ces jours-ci à Paris nous a rappelé un peu les physionomies. Alors que moi, ce qui me frappe énormément dans la prose lamartinienne, enfin c'est par Graziella que je suis revenu peut-être même venu à Lamartine. Enfin, je suis d'une génération qui a peu lu Lamartine, sinon au lycée. Non, c'est le...
Dans les anthologies.
Dans les anthologies, c'est cela. Et ce n'était certainement pas le poète qui a le plus marqué notre génération. Enfin, aucun de mes camarades, ni au lycée, ni à l'université, ne passait ses nuits à lire Lamartine. Alors que des... Je ne sais pas, Baudelaire, Mallarmé, pour ne citer que cela, pouvaient nous troubler, nous exalter. Enfin, nous...
Oui, mais en relisant votre édition de Graziella, et avec ce que vient de dire Marius-François Guillard, justement, le problème se pose parce que je m'aperçois, avec les éditions successives, je ne mets pas la vôtre en cause. Au contraire, vous levez une certaine hypothèque. Mais enfin, si je me souviens des travaux d'Henri Guimin, par exemple, enfin, d'autres, on a tendance à lire Graziella comme si on lisait Stendhal. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire en voyant dans Graziella un livre à clé et qui devrait être parfaitement fidèle. Encore une fois, ce qui est arrivé aux méditations à cause du commentaire lamartinien, c'est ça le problème.
Oui, non, mais là... C'est la faute à Lamartine, si j'ose dire.
Oui, parce que comme pour les méditations.
Il a quand même présenté le... Enfin, Graziella, ce n'est pas un roman.
Non. Hein,
c'est un épisode de sa vie. C'est présenté dans les confidences.
Oui, c'est ça.
Et c'est donc le récit d'un voyage, de son premier voyage en Italie.
Oui, mais c'est peut-être aussi lointain de lui que René, par exemple, de Chateaubriand.
Oui, mais enfin, il dit, j'avais tel âge, mes parents m'ont envoyé, j'ai profité de telle occasion. Enfin, ce sont des mémoires. Enfin, c'est un texte de mémoire, et donc on est forcément pris dans une première lecture ou dans une première analyse, pris dans le problème de la véracité de ce témoignage. Enfin, comme il y a eu toute une littérature, tout un dossier Graziella qui a mis en cause. Ce que racontait Lamartine dans ce récit, et qu'il a lui-même mis en cause, enfin, dans des textes postérieurs, avec toute une série de contradictions. Donc, enfin, on ne peut pas ne pas lire ce texte...
En évitant le rapport autobiographique.
Et alors, ce qui est très troublant, c'est que ce texte extrêmement suspect du point de vue de la vérité biographique m'a paru à moi d'un poids, d'une précision, de son évocation de l'Italie et d'une région très particulière. Et alors, j'étais amené à Graziella par des séjours à Ischia, enfin Ischia qui était une île qu'aimait, enfin, où a très peu séjourné Lamartine, mais enfin qui, il a créé un mythe de cette île. Enfin, il dit qu'il aurait voulu y vivre. En réalité, il y a passé quelques semaines, enfin, à deux reprises, peu importe. Et l'évocation de la vie rustique, de la nature, des gens, jusqu'à la connaissance même du dialecte local, et tout cela est d'une précision, j'ose dire, confondante. Enfin, la topographie également. Et à cette époque, je crois que c'était très très nouveau, enfin, de parler de l'Italie dans ce thème. Vous avez parlé de, bon, c'est plus tardif, de Stendhal. Enfin, Stendhal connaissait des chroniques italiennes, et puis il connaissait l'opéra, les salons. C'est le...
Oui, ce n'est pas le peuple de Lamartine,
non,
tel qu'on le voit dans Graziella,
bien sûr.
Alors c'est peut-être cela, je vous propose maintenant d'écouter ce rapprochement, c'est peut-être cela qui a requis quelqu'un comme Macorlan.
La chechia d'un bersaliere qui descend de Pizzo Falcone et les stornelli qu'il fredonne sont des tourments de qualité. J'étais alors un peu pucelle, la picciarella de Chiaia, et je dansais la tarentelle pour les ladies de Procida. On m'appelait Catari de Chiaia, et de ce temps j'ai la peine agréable de mes succès vraiment déraisonnables. quand je chantais les chansons de Kiaya. Je chantais à chaque départ des migrants pour les Amériques, de Bersaglieri pour l'Afrique, et de touristes pour quelque part. On me jetait des sous sonores qui rebondissaient sur le quai, et les soldats criaient encore eux, car je leur jetais des baisers. On m'appelait Qatari de Kiaya, et de ce temps j'ai la peine agréable de mes succès vraiment déraisonnables. Quand je chantais les chansons de Kiaya,
revenons quand même, si vous voulez, à propos de à travers Graziella, il y a quelque chose qui me frappe. Dans ce que vous dites, Jean-Michel Garber, dans votre préface, et effectivement ce que dit le texte de Lamartine lui-même, la façon dont il est écrit, c'est que là nous tombons, et c'est général pour les proses de Lamartine, enfin pour les proses, vous me dites que ce n'est pas un roman, mais disons quand même prose romanesque, enfin comme Geneviève et autres, à cette acuité de perception, mais surtout à l'acuité du rendu. C'est-à-dire il n'y a pas d'imprécision, justement. Or, vous êtes obligé, vous, Marius François Guillard, parlant des poèmes, de souligner un des traits caractéristiques de la poétique de Lamartine, qui est le contraire, qui est l'imprécision.
C'est vrai. Enfin, je dirais que c'est le trait d'une des poétiques de Lamartine. Lamartine a donné deux définitions de la poésie qui ne sont pas très conciliables, mais qui correspondent en réalité à deux veines d'inspiration chez lui. Il y en a une... une définition qu'il a empruntée à Saint-Martin, un illuminé de la fin du XVIIIe siècle.
L'homme de désir.
Oui. L'homme de désir. Et c'est la poésie et la respiration de l'âme. C'est un emprunt d'autant plus frappant que Saint-Martin définissait ainsi, lui, la prière. Mmh. Et il est certain que la poésie de Lamartine est très souvent une prière. Il compose ses poèmes comme il prierait, ou à vrai dire, son poème est une prière très souvent. Et d'autre part, un autre jour, il a écrit plus tard dans La Revue des Deux Mondes, un des rares textes de critique littéraire qu'il a écrit du moins dans la première partie de sa vie, qui s'appelle « Des destinées de la poésie ». Et là, il dit « La poésie sera de la raison chantée ». Ça ne va pas très bien avec la respiration de l'âme. Mais ça, ça correspond à toute la veine de Lamartine qui est beaucoup moins connue aujourd'hui, qui est sa veine, je dirais, intellectuelle plutôt que sentimentale. Celle où il utilise la poésie pour faire passer un message philosophique, politique.
Oui, son poème La Foi, par exemple.
La Foi, ou encore les odes qu'il a écrites sur les événements politiques de 1830, ou postérieurs à 1830, ou encore un poème comme Utopie, qu'il écrit sous Louis-Philippe. Et là, Lamartine utilise la poésie, en quelque sorte, pour exprimer, avec des mythes, avec des images, au fond, ce qu'il n'ose pas dire et qu'il ne peut pas dire par tactique, car il est comme tous les parlementaires, il veut être élu à ses électeurs. Il est élu par des gens bien pensants, par des conservateurs, et en fait, il est très en avance sur eux. Alors, il le dit en poésie, il pourra toujours dire c'est de la poésie. Et il appelle ça même, pour que les choses soient claires, si je puis dire, il appelle ça par exemple utopie. Mais c'est ce que je vois, c'est l'avenir tel que je le vois. Et l'avenir tel qu'il le voit, c'est par exemple plus d'église, c'est par exemple plus de roi. Mais bien entendu, s'il se présentait avec un programme pareil, non seulement aux yeux de sa femme, qui est une pieuse catholique, mais aux yeux de ses électeurs, qui pour la plupart sont, sinon catholiques, du moins cléricaux, et pour la plupart conservateurs et royalistes, bien entendu, il n'aurait pas de succès. Et d'ailleurs, il ne veut pas spécialement renverser le roi. Mais il pense que l'avenir, le sens de l'histoire, comme on dit maintenant, c'est celui qu'il définit dans Utopie.
Oui, mais en même temps, il y a une sorte de travail de l'écriture chez Lamartine, ça me frappe, et ça devrait frapper tout lecteur qui prend ses méditations poétiques, nouvelles méditations poétiques, et les textes que vous avez choisis, qui terminent le volume. Si on prend tout ça dans un continu, il n'y a pas tellement une évolution, me semble-t-il, de Lamartine, mais il y a justement une sorte de jeu, enfin j'emploie le mot jeu au sens sérieux que ce terme peut prendre, de plusieurs registres.
Oui.
Puisque je lis ces deux premiers vers de La vigne et la maison, enfin, où le ton pré-baudelairien est évident. Quel fardeau te pèse, ô mon âme, sur ce vieux lit des jours par l'ennui retourné. Enfin, c'est évidemment tout à fait pré-baudelairien. Et nous aurons aussi une autre poésie qu'on ne peut pas dire plus lamartinienne. Et je pense par exemple à cet admirable poème, pour moi c'est un admirable poème, que je voudrais qu'on entende, qu'on écoute. C'est l'automne, n'est-ce pas, avec un des plus beaux vers peut-être de toute la poésie française.
Salut, bois couronné d'un reste de verdure, feuillage jaunissant sur les gazons épars. Salut, dernier beau jour. Le deuil de la nature convient à la douleur et plaît à mes regards. Je suis d'un pas rêveur le sentier solitaire. J'aime à revoir encore pour la dernière fois ce soleil pâlissant dont la faible lumière perce à peine à mes pieds l'obscurité des bois. Oui, dans ces jours d'automne où la nature expire, à ses regards voilés, je trouve plus d'attrait. C'est l'adieu d'un ami. C'est le dernier sourire des lèvres que la mort va fermer pour jamais. Ainsi, prêt à quitter l'horizon de la vie, pleurant de mes longs jours, l'espoir évanoui, je me retourne encore, et d'un regard d'envie, je contemple ces biens dont je n'ai pas joui. Terre, soleil, vallon, belle et douce nature, je vous dois une larme au bord de mon tombeau. L'air est si parfumé, la lumière est si pure, au regard d'un mourant, le soleil est si beau. Je voudrais maintenant vider jusqu'à la lie ce calice mêlé de nectar et de fiel. Au fond de cette coupe où je buvais la vie, peut-être restait-il une goutte de miel. Peut-être l'avenir me gardait-il encore un retour de bonheur dont l'espoir est perdu. Peut-être dans la foule, une âme que j'ignore aurait compris mon âme et m'aurait répondu. La fleur tombe en livrant ses parfums aux zéphyrs. À la vie, au soleil, ce sont là ses adieux. Moi, je meurs. Et mon âme, au moment qu'elle expire, s'exhale comme un son triste et mélodieux.
Ces différents registres, Marius François Guillard, cette façon, encore une fois, est-ce que vous êtes de mon avis, enfin, ce n'est pas une évolution, c'est tout d'un coup des espèces de coups de sonde qui permettent à Lamartine de trouver des voies, parfois très surprenantes, et parfois, il faut bien le dire, parfois un petit peu, j'allais dire ridicule, non, oui. N'ose pas employer cela, mais enfin, systématique, n'est-ce pas, par exemple, les inversions systématiques, tout d'un coup, cet alexandrin qui vraiment est... hexamètre par hexamètre, enfin c'est très frappant dans des chants entiers de Jocelyn par exemple.
Oui.
Et puis tout d'un coup ces éclats, n'est-ce pas, on se dit mais Mallarmé va paraître à l'horizon.
Eh bien je crois... Oui,
certainement, il y a une certaine abstraction du vers lamartinien qui, enfin,
dans sa structure.
C'est ça, dans sa structure, mais dans son vocabulaire.
Dans son vocabulaire.
Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'échappait dans mes lectures d'adolescent et qui me frappe et me séduit maintenant. Et c'est à ce propos-là que je citais Léopard et que je posais à M. Guillard la question de savoir si Lamartine avait lu Léopard. Enfin,
j'avoue l'ignorer. Comme quoi on peut travailler 40 ans sur un écrivain et sécher encore lorsqu'on vous pose une question aussi précise.
Oui, mais alors revenons quand même à un point qui me paraît, moi, très important, parce que vous l'avez ébauché tout à l'heure. Et nous ne quittons pas le sujet, vous pourriez y revenir. Mais c'est cette façon qu'a Lamartine, vous avez parlé du lac du Bourget, n'est-ce pas? Bon, et c'est vrai qu'on peut s'imaginer, à l'époque, les poètes de l'époque, auraient écrit le lac du Bourget, aurait montré les lieux, vraiment, lui dépasse, n'est-ce pas? Et je pense que c'est d'autant plus frappant, parce que je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que certains écrivains de cette époque cessent justement de faire de la poésie de circonstances au sens propre? Poésie de circonstances, il y a les poèmes politiques, bien sûr, mais ils dépassent. Et je me demandais ce qui se passe. Moi, ce qui me frappe, c'est que Lamartine appartient quand même à une génération, comme Chateaubriand, pour lesquels, et Benjamin Constant, pour lesquels on n'est pas écrivain. Voilà. On est écrivain de surcroît. Et il faut attendre Hugo, Balzac, Dumas, pour, d'ailleurs c'est là la création de la Société des gens de lettres, pour une revendication de l'industriel dont a parlé Stendhal, c'est-à-dire une existence propre d'écrivain. Un écrivain est un monsieur qui existe dans la cité au même titre que l'homme politique. Mais pas encore pour Lamartine, pas encore pour Chateaubriand, pas encore pour Benjamin Constant.
Certainement, mais je vous répondrai, pardonnez-moi, en me citant moi-même, j'ai écrit un petit livre sur Lamartine qui commence par ces quatre mots. Lamartine est un gentilhomme. Et Henri Guillemin, qui est le meilleur connaisseur sans doute de Lamartine, a bien voulu un jour me dire, c'est très fort d'avoir commencé comme ça. Bien sûr, je savais que Lamartine était un gentilhomme, mais au fond, vous avez montré que c'était très important. Et ça veut dire quoi, en l'occurrence, par rapport à la littérature? Que ça n'est pas l'état d'un gentilhomme que d'être écrivain. Un gentilhomme, comme le dit le gendre de M. Poirier, il a trois métiers possibles et trois seuls, évêque, laboureur ou soldat. Laboureur, Lamartine l'a été, il était propriétaire terrien. Soldat, il a été au moins lieutenant-colonel de la garde nationale, il a été garde du corps du roi Louis XVIII. Et puis, il peut être, bien sûr, politique, ça c'est un métier noble. Et Lamartine a écrit une préface assez étonnante pour un poète aussi abondant. Je crois que c'est la préface des recueillements, mais enfin je cite de mémoire, où il dit « Que diriez-vous d'un homme qui chanterait du matin jusqu'au soir ?» Eh bien, on peut répondre un peu facilement, on répondrait « C'est un chanteur ». Mais il veut dire par là « Moi, je n'y ai pas employé 30 mois de ma vie à la poésie. » C'est en plus. Lamartine n'est jamais entré dans les querelles d'école. Lamartine, qui était, je le répète, très nettement l'aîné des romantiques, n'a jamais voulu être considéré comme un romantique. Et quand il a voulu faire moderne, et justement tomber dans une poésie plus liée à des notions comme la couleur locale, qui était une des revendications romantiques, une des tendances romantiques, il écrit à un ami, c'est du romantisme, mais rassure-toi, là encore j'ai de mémoire, c'est pas du romantisme à la Hugo. Et en fait, Lamartine, qui est un merveilleux artiste, n'a jamais été un technicien. Il n'a presque jamais réfléchi sur son métier, et il a pris les mots, pourquoi vous disiez qu'il n'y a pas d'évolution, mais il a pris le vocabulaire classique, et il l'a gardé, pour ainsi dire, jusqu'à la fin de sa vie. Quand il a voulu faire une épopée, il n'avait pas imaginé autre chose que de la diviser
en chants, etc.
Bon, comme il n'a pas du tout imaginé ce que Victor Hugo imaginerait dans la Légende des siècles, les petites épopées. Et, en revanche, Lamartine, qui est un écrivain par certains côtés négligents, les fautes de syntaxe sont fréquentes chez lui, les approximations de vocabulaire sont très fréquentes, et quand on voit ses manuscrits, on se rend compte de la différence qu'il y a entre une correction de Lamartine et une correction de Victor Hugo.
Il y a d'ailleurs un type de faute d'accord qui porte son nom, c'est le lamartinisme, j'ai vu ça dans une chronique sur le langage.
Il y a beaucoup de types de fautes. Par exemple, je donne un exemple tout à fait élémentaire. Lamartine, quand ça l'arrange pour le compte de syllabes, fait toujours sauter le S de la deuxième personne du singulier d'un verbe que tu gardes, alors que si le mot d'après doit être commence par une voyelle, il a besoin de l'élision, alors que tu gardes A. Il laisse tomber le S. Et moi, son humble éditeur, je laisse tomber le S aussi, puis sinon je ferai dire à Lamartine, écrire à Lamartine un vers faux au sens de la versification traditionnelle. Mais cet homme qui est donc en un sens, qui est un gentilhomme qui versifie. Et il prend donc l'outil, les outils qu'il a trouvés. C'est vrai pour le vocabulaire, c'est vrai pour les figures de style, comme les inversions que vous citiez. Il y en a une que je trouve cocasse, qui est d'un poème pourtant tardif, où il y a, nous allons le voir, un renouvellement de Lamartine. Il écrit Alphonse Karr, qui est un écrivain de second ordre, retiré à ce moment-là sur la Côte d'Azur, et qui est devenu horticulteur. Il vend des fleurs. Alors, il a une clientèle, en particulier d'anglaise. Alors, pour dire anglaise, qu'est-ce que dit Lamartine? Il dit d'Albion, la Vierge, au front vermeil. C'est parfaitement... Il y a tout combiné, là. Il y a l'adjectif dit noble, mais éculé comme vermeil. Il y a l'inversion, enfin, etc. Il y a le style... Enfin, c'est vraiment ridicule, comme vous le disiez tout à l'heure, et comme moi, Lamartinien, je n'hésite pas à le dire. Mais il y a tout de même un renouvellement... Non point des formes, non point du vocabulaire, mais pourtant, permettez-moi de me contredire, si tout de même du vocabulaire. Parce que Lamartine continuera jusqu'au bout d'appeler les jeunes filles des vierges. D'abord, ça correspondait peut-être à une réalité historique. Et deuxièmement, c'était le style noble. C'est ainsi qu'on devait écrire. C'est ainsi qu'écrivait Voltaire, c'est ainsi qu'écrivait la Harpe, et tous les gens dont Lamartine a été l'élève docile. Mais en revanche, il introduira de plus en plus de mots familiers. Il aura jusqu'au bout des périphrases, des inversions, mais il y aura de plus en plus de mots familiers. Et pour revenir à ce que disait Jean-Michel Gardère tout à l'heure, je ne suis pas étonné que lui, qui est un bon italianiste, ait repéré cette attention réelle qu'il ne trouve pas chez d'autres voyageurs, disons, plus mondains en Italie. Eh bien, c'est qu'il ne faut pas oublier... Je reviens à la biographie, mais la biographie et l'œuvre sont quand même très mêlées, même si cette œuvre n'est pas le tissu d'anecdotes que la légende pourrait faire croire. Lamartine n'est pas un écrivain de métier, on l'a dit, mais il faut dire aussi que ce n'est pas un Parisien.
Oui, je pense que c'est très important.
Lamartine est un homme qui, même au plus fort de sa vie politique, le rythme des sessions parlementaires le permettait à l'époque, a passé toujours, quand il était en France, la moitié de son année en Bourgogne. Où il s'occupait réellement et concrètement, même si
de ses vignes, de ses terres,
où il avait des rapports avec des paysans, il les écoutait parler, où il parlait avec eux, dans un style qu'on peut imaginer à travers un de ses romans un petit peu protecteur, qui était le ton de l'époque. Mais il savait comment ces gens parlaient, et quand il était en Italie à plus forte raison, au jeune homme, et qu'il s'est mêlé d'une manière moins platonique que Graziella ne le raconte à la vie d'une famille de pêcheurs, il entendait parler ces gens, il n'est pas étonnant que lui qui savait pas mal l'italien ait été sensible à des variations dialectales, à des choses de ce genre-là. Il était beaucoup plus proche de la réalité terrienne. En revanche, il était totalement étranger, je dirais, sur le plan économique, à ce qu'était la grande transformation du XIXe siècle et dont il avait horreur, qui était l'industrialisation.
Il souhaitait un monde qui ne passe pas. Il le dit d'ailleurs très clairement.
Les grandes villes, c'était le mal pour lui.
Mon cœur, lassé de tout, même de l'espérance, n'ira plus de ses vœux importuner le sort. Prêtez-moi seulement, vallon de mon enfance, un asile d'un jour pour attendre la mort. Voici les trois sentiers de l'obscure vallée. Du flanc de ses coteaux pendent des bois épais qui, courbant sur mon front leur ombre entremêlée, me couvrent tout entier de silence et de paix. Là, deux ruisseaux cachés sous des ponts de verdure tracent en serpentant les contours du vallon. Ils mêlent un moment leur onde et leur murmure, et, non loin de leur source, ils se perdent sans nom. La source de mes jours, comme eux, s'est écoulée, elle a passé sans bruit, sans nom et sans retour. Mais leur onde est limpide, et mon âme troublée n'aura pas réfléchi les clartés d'un beau jour. La fraîcheur de leur lit, L'ombre qui les couronne m'enchaîne tout le jour sur les bords des ruisseaux. Comme un enfant bercé par un chant monotone, mon âme s'assoupit au murmure des eaux. Ah, c'est là qu'entouré d'un rempart de verdure, d'un horizon borné qui suffit à mes yeux, j'aime à fixer mes pas et, seul dans la nature, à n'entendre que l'onde, à ne voir que les cieux. J'ai trop vu, trop senti, trop aimé dans ma vie. Je viens chercher, vivant, le calme du l'été. Beau lieu, soyez pour moi ces bords où l'on oublie l'oubli seul désormais et ma félicité. Mon cœur est en repos, mon âme est en silence. Le bruit lointain du monde expire en arrivant comme un son éloigné qu'affaiblit la distance à l'oreille incertaine apportée par le vent. D'ici, je vois la vie à travers un nuage s'évanouir pour moi dans l'ombre du passé. L'amour seul est resté, comme une grande image survit seule au réveil dans un songe effacé. Repose-toi, mon âme, en ce dernier asile, ainsi qu'un voyageur qui, le cœur plein d'espoir, s'assied avant d'entrer aux portes de la ville et respire un moment l'air embaumé du soir. Comme lui, de nos pieds secouons la poussière. L'homme par ce chemin ne repasse jamais. Comme lui, respirons au bout de la carrière ce calme avant-coureur de l'éternelle paix.
Je voudrais en venir, si vous voulez, et revenir en même temps sur le rapport comme ça de Lamartine, du poème et de l'anecdote. Pour un poème tardif, qui n'avait pas repris d'ailleurs, je crois, dans les œuvres complètes, ou qu'il a repris dans les œuvres complètes, mais qui ne figure pas dans un recueil précis, c'est à Madame Victor Hugo en souvenir de ses noces. Or là, nous voyons très bien, premièrement, il n'a pas assisté aux noces des Hugo, il n'était pas là. Hugo aurait bien voulu, d'ailleurs, ils étaient très liés à ce moment, mais... Lamartine ne s'est pas déplacé, puis Lamartine était de loin supérieur à ce jeune Hugo, n'est-ce pas, de 18 ans, oui. C'est certain. D'autre part, il écrit ce poème où on voit passer l'ombre de Léopoldine, mais la mort de Léopoldine c'est 1643, le poème est beaucoup plus tardif encore, et où l'on voit évoquer dans une versification hugolienne l'exil d'Hugo. Il y a un mensonge initial, mais il y a une récupération de réalité extraordinaire. C'est pas parce que, est-ce qu'il a appris cette fameuse légende des neuf muses, enfin, ou des neuf Hugo faisant neuf fois l'amour à sa femme dans la nuit de noces, en l'honneur des neuf muses, et est-ce pour ça qu'il a écrit comme un vendangeur ivre, enfin, ou bien est-ce qu'il a vraiment trouvé, tout seul, par une sorte d'illumination, par une sorte de contact très précis avec un autre réel.
Non, je ne pense pas qu'il ait eu de confidence aussi précise de Victor Hugo, avec qui il n'était jamais intime, sur sa nuit de noces. Mais en revanche, Lamartine a toujours eu des relations avec Victor Hugo, et puis Victor Hugo est devenu comme lui-même un homme de plus en plus public, et Lamartine n'a pas pu ignorer la vie, disons, sentimentale, ardente, et orageuse, et multiforme de Victor Hugo. Et c'est même à son propos qu'il a... fait une plaisanterie un peu rose qui vous fera entendre le Lamartine, non pas poète, mais le Lamartine tel qu'il parlait lorsque Victor Hugo s'est fait prendre en flagrant délit d'adultère.
Avec Madame Léonie Billard, bien sûr.
Lamartine a eu ce mot, on se relève de tout en France, même d'un canapé.
Voici le poème.
À Madame Victor Hugo, souvenir de ses noces. Le jour où cet époux, comme un vendangeur ivre, dans son humble maison t'entraîna par la main, je m'assis à la table où Dieu vous menait vivre, et le vin de l'ivresse arrosa notre pain. La nature servait cette amoureuse agape, tout était miel et lait, fleurs, feuillages et fruits, et l'anneau nuptial s'échangeait sur la nappe, premier chaînon doré de la chaîne des nuits. Psyché de cette scène où s'éveilla ton âme, tes yeux noirs regardaient avec étonnement sur le front de l'époux tout transpercé de flammes, je ne sais quel rayon d'un plus pur élément. C'était l'ardent brasier qui consume la vie, qui fait la flamme ailleurs, le charbon ici-bas, et tu te demandais incertaine et ravie, est-ce une âme, Est-ce un feu ? Mais tu ne tremblais pas. Et la nuit s'écoulait dans ses chastes délires, et l'amour sous la table entrelaçait vos doigts, et les passants surpris entendaient ces deux lyres dont l'une chante encore, et dont l'autre est sans voix. Et quand du dernier vin la coupe fut vidée, j'effeuillai dans mon verre un bouton de jasmin. Puis je sentis mon cœur mordu par une idée, et je sortis d'hier en redoutant demain. Et maintenant je viens, convive sans couronne, redemander ma place à la table de deuil. Il est nuit, et j'entends sous les souffles d'automne le stupide océan hurler contre un écueil. N'importe, asseyons-nous. Il est fier, tu fus tendre. Que vas-tu nous servir, ô femme de douleur? Où brûlèrent deux cœurs, il reste un peu de cendre. Trempons-la d'une larme, et c'est le pain des pleurs.
Bien, je voudrais revenir, puisque nous arrivons bientôt au terme de cette émission, je voudrais revenir, Jean-Michel Gardère, quand même sur la prose lamartinienne. Enfin, outre Graziella, je suis très frappé, moi par exemple, par un autre livre, enfin, qu'on ne trouve plus, qui n'a pas été réédité, c'est assez dommage. C'est son livre sur la Révolution de 1848, n'est-ce pas, où il parle de lui à la troisième personne, d'ailleurs, il y a un ton très gaullien déjà,
c'est vrai.
Dans ce livre. L'histoire des Girondins a quand même été aussi un grand moment de la littérature politique. Enfin, historique et politique. Et vous dites quelque part, et dans votre préface, Jean-Michel Gardère, quelque chose qui me paraît intéressant, vous dites il récupère tout naturellement ce langage peuple que Michelet, dans Le Peuple, effectivement, enfin dans son livre Le Peuple, lui, Michelet, qui est né peuple, ne parvient pas du tout et regrette de ne pas parvenir à saisir, ni surtout à restituer.
Je crois qu'il faut revenir à ce que dit M. Guyard à l'instant, à savoir que... Il est essentiel de se rappeler que Lamartine est un gentilhomme.
Et oui, mais justement.
C'est parce qu'il est un gentilhomme qui a vécu en province, à la campagne, qu'il a cette perception, peut-être d'ancien régime, mais qui est beaucoup plus précise, enfin, de la terre et des gens de la terre, à propos pour ce qui est d'Ischia.
Oui, alors là, il y a un contact entre un homme et vraiment un paysage élu. Parce que si vous prenez Chateaubriand, par exemple, qui c'est un peu la même chose à ce moment-là, n'est-ce pas? Aussi un provincial, aussi un gentilhomme, bon, mais puis l'Amérique et puis tout ça. Enfin, vous ne pouvez pas dire absolument que, par exemple, l'Amérique de Chateaubriand puisse être une réalité populaire de l'Amérique de son temps.
Ben, sire, moi je l'énonce.
Alors que Ischia, vraiment, alors c'est quelque chose qui s'est emparé de Lamartine. Ou bien est-ce que. Il avait tellement le sens, peut-être, comme on ne l'a pas connu, on peut imaginer, qu'il avait tellement le sens du dialecte qu'il l'a saisi tout de suite, qu'il est rentré au sein du langage du peuple, qui n'était pas le français.
Enfin, je n'exagérerai pas sa connaissance du dialecte. Au cours du récit, il fait semblant, enfin, il nous dit qu'il est capable de traduire au pied levé en dialecte. Paul et Virginie, ça me paraît très surprenant.
Les pauvres habitants d'Ischia, d'ailleurs.
Mais je reviendrai aussi sur un autre aspect de ce que vous avez dit à l'instant. Savoir que Lamartine n'est pas un écrivain professionnel, mais quel métier, enfin, quel métier de la prose, quel équilibre de syntaxe, quel art de la variation des verbes, et sans un mot de trop, enfin sans... C'est d'une mesure et d'une perfection qui me saisit à chaque lecture. Et D'autre part, quand vous disiez que c'est un... Enfin, je me demande même si... Enfin, c'est l'impression qu'a le lecteur, peut-être un peu naïf, mais moderne. C'est, on se demande si Lamartine a même eu conscience de la modernité, de, parfois, de ce qu'il il disait aussi bien en prose qu'en vers. Lorsque certains vers de Lamartine évoquent pour moi d'autres vers de Leopardi ou de Mallarmé, c'est à la lettre. Je me demande si Lamartine, enfin, c'est dit de façon un peu naïve de ma part, avait conscience de la force de pensée, d'abstraction qu'il y avait dans son champ.
Mais alors là, on peut aussi toujours se demander. Oui. Non, on peut toujours se demander si c'était pas valable pour beaucoup d'écrivains, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, est-ce que le texte de l'écrivain ne dit pas, à un moment donné, plus que ce que ne voulait dire l'écrivain ? Je suis parfaitement d'accord avec ce que disait tout à l'heure Marius-François Guillard, à savoir que, effectivement, Lamartine, pour des raisons électoralistes, nous dirions aujourd'hui, ne pouvait exprimer qu'en vers certaines de ses idées, parce que sinon ça aurait fait peur. Mais est-ce que le fait de les exprimer ainsi, est-ce que les idées n'allaient pas finalement quand même plus loin ? Je prends un autre exemple, si vous voulez, dans Victor Hugo, encore une fois. C'est au moment où Victor Hugo écrit « Le dernier jour d'un condamné ». Mais il est bien certain que Victor Hugo, à ce moment-là, ne sait pas à quel point son texte est grave. Sur le plan, par exemple, du monarque, n'est-ce pas, quand il montre le condamné à mort dans une cellule avec l'autre homme à l'autre bout de la ville, gardé aussi, et qui dans un palais, celui-là dans la chambre d'un palais, l'équivalence qu'il établit, c'est pas le rapport de la grâce que le roi peut accorder ou non au condamné à mort, c'est que le roi devient mortel. Il est désigné comme mortel, et ce Victor Hugo-là, qui est encore ultra-royaliste, n'en a certainement pas conscience, son texte va plus loin que lui. Est-ce que des choses comme ça ne se passent pas chez Lamartine ?
Certainement, mais si nous revenons à la prose, je dirais qu'il y a au moins un texte de prose où Lamartine, sans d'ailleurs dire « je vais vous dire des choses très modernes », est effectivement très en avance sur son temps. C'est le texte qui s'appelle « La politique rationnelle », qui est en somme son manifeste politique d'après 1830. Or, il y a une chose qui est très frappante, surtout quand on pense, comme je l'ai rappelé moi-même, que Lamartine est un gentilhomme, qu'on pense au type de famille auquel il appartient, au sens familial du terme, mais aussi au sens politique du terme. Les grandes querelles politiques de l'époque, elles se déroulent autour de questions de forme de gouvernement et de dynastie. Il y a les légitimistes, les orléanistes, les républicains, quelques bonapartistes. Je dis quelques parce que nous sommes juste après 1830, il n'y en a pas beaucoup. Et Lamartine écrit en substance qu'au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Monarque, président couronné ou président, ça nous paraît évident. Aujourd'hui, il nous paraît qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre une monarchie constitutionnelle, démocratique, disons, et une république démocratique, au sens où nous l'entendons en France. Mais à l'époque où on se faisait tuer, c'est le cas de dire, pour ou contre les Bourbons de la branche aînée, pour ou contre les Bourbons Orléans, pour ou contre la République, synonyme de disparition de la royauté, il y a une espèce d'indifférence aux formes. Et les vrais problèmes, Lamartine les voit à un autre niveau, au niveau des libertés, au niveau de la laïcité. Enfin, et ça, que ça se fasse sous un vêtement monarchique ou républicain, c'est très secondaire. Encore une fois, à 150 ans de distance, ça nous paraît évident.
Oui, bien sûr.
Mais là, c'est très moderne, ça.
Il y a aussi une chose très frappante. Alors, j'abonde dans votre sens, parce que il me paraît que Lamartine, dans cette génération, est un des rares à ne pas avoir été frappé par le visage de Napoléon. D'autant plus qu'il appartient quand même à ces gens qui vont lire, qui vont être modifiés profondément, je crois, pour cette partie du 19e, par l'apparition de cette imposture de génie qu'est le mémorial de Sainte-Hélène, n'est-ce pas ? Où vraiment on voit des gens devenir bonapartistes qui ne l'étaient pas auparavant. Mais là, encore une fois, pour Lamartine, mémorial ou pas mémorial, Napoléon, malgré son poème Bonaparte, est quelqu'un qui n'entre pas dans son panthéon. Enfin, ça ne l'intéresse pas.
Ah, mais je me permettrai de vous démentir, ça l'intéresse beaucoup, mais il est toujours contre.
Oui, c'est ça.
Et c'est en ça qu'il est un isolé dans son siècle.
C'est ça, c'est ça.
Tous les grands écrivains de ce siècle, un jour ou l'autre, ont été bonapartistes. Et même, comme Victor Hugo sous le Second Empire, ils ont pratiqué la technique qui consiste à magnifier le grand pour écraser le petit. Or, Lamartine, pour des raisons d'ailleurs différentes d'un bout à l'autre de sa vie, s'il a changé d'idée en politique, il a toujours été un adversaire de Napoléon. Et jusqu'à un point même qui confine au sectarisme, quand, sous le Second Empire, Thiers publie sa grande histoire du consulat et de l'Empire, Lamartine en fait un compte-rendu dans le cours familier de littérature. Et il écrit ceci qui peut paraître une énormité, même à des gens qui ne sont pas des idolâtres de Napoléon, à qui tout le monde reconnaît quand même un certain don, pour ne pas dire génie d'organisation. Il découvre à travers Thiers, un auteur qu'il n'aime pas, sur un sujet Napoléon qu'il n'aime pas, il découvre, et comme il est honnête, il doit admettre que Napoléon avait un certain génie d'organisation administrative. Mais il le découvre véritablement à 70 ans. Donc il s'était... Napoléon, c'était pour lui le despotisme, c'était l'homme qui avait fait tuer les Français. Et quand on a fait la grande manifestation du retour des cendres sous Louis-Philippe, Lamartine a prononcé à la Chambre des députés un discours où il redoutait la renaissance du bonapartisme. Ce discours se termine certes par « Je vote les 2 millions », qui était le crédit nécessaire pour les cérémonies, mais il avait demandé dans son discours, et le journal officiel de l'époque note « Sensation », qu'on inscrivit sur le tombeau de Napoléon « un Napoléon seul ». Il y en a eu un, ça suffit. Et celui-là même, il le subissait.
Alors, avant de terminer, pour écouter le lac, je voudrais vous poser une dernière question, Marius François Guillard. Alors, est-ce que Lamartine, le poète Lamartine, n'est pas un poète des libertés, finalement ?
Certainement. C'est un poète des libertés. De liberté, il faut bien le dire, modérée.
Oui, c'est cela, mais justement, modéré. Sans excès.
Mais des libertés, pour continuer, pour revenir à Napoléon, si vous voulez, au point de départ, il faut voir que dans ces familles, comme celle où il était élevé, que nous situerions volontiers en faisant des transcriptions modernes à l'extrême droite. Mais Napoléon a d'abord été perçu comme l'oppresseur. Ce n'était pas seulement le souverain illégitime, mais en même temps, c'était l'homme de la conscription, c'était l'homme des impôts, c'était l'homme de la guerre, c'était l'oppression. Et la Restauration, c'était une bouffée de liberté. Après tout, c'est là qu'a été fondé en France vraiment le régime parlementaire. Et une liberté encore aristocratique qui après deviendra, chez Lamartine, une liberté vraiment démocratique, mais toujours assez modérée.
Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour ? Ô lac, l'année à peine a fini sa carrière et près des flots chéris qu'elle devait revoir, regarde, je viens seul m'asseoir sur cette pierre où tu la vis s'asseoir. Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes. Ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi le vent jetait l'écume de tes ondes sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souvient-il, nous voguions en silence. On entendait au loin sur l'onde et sous les cieux que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence tes flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fut attentif et la voix qui m'est chère laissa tomber ces mots. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez de malheureux ici-bas vous implorent. Coulez, coulez pour eux. Prenez avec leurs jours les soins qui les dévorent. Oubliez les heureux. Mais je demande en vain quelques moments encore. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus lente, et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, Aimons donc de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons, l'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule, et nous passons. Tant jaloux, se peut-il que ces moments d'ivresse où l'amour à long flot nous verse le bonheur s'envolent loin de nous de la même vitesse que les jours de malheur? Et quoi n'en pourrons-nous fixer au moins la trace? Quoi passer pour jamais? Quoi tout entier perdu? Ce temps qui les donna, ce temps qui les efface, ne nous les rendra plus. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez? Parlez, nous rendrez-vous ces extases sublimes que vous nous ravissez? Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux, qu'il soit dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords par tes bords répétés, dans l'astre au front d'argent qui blanchit ta surface de ses molles clartés. Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit, ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé.
Bien entendu, nous aurions encore beaucoup de choses à dire à propos de Lamartine, puisque Lamartine, malgré tout, et nous l'avons montré, est un des grands méconnus de la littérature française. Non pas un inconnu, puisque nous savons qu'il est lu, qu'il est beaucoup lu. Mais comment est-il lu? C'est un autre problème. Nous avons dit, nous avons montré qu'il y avait une image héritée, une sorte d'idée reçue de Lamartine et dont il faut le sauver. Les travaux que nous avons évoqués aident à cette connaissance plus certaine de Lamartine, aident bien entendu à le dépouiller de ce masque que les historiens de la littérature, que les lecteurs successifs ont posé sur son véritable visage. Nous savons que ce n'est pas cet individu, ce garçon, ce jeune homme, parce qu'enfin, jeune homme, il est comme tout le monde, il vieillit, mais on l'a fixé, figé dans cette attitude d'homme, de jeune homme, d'olant. Les cheveux au vent, nous l'avons dit, monté sur une chaise en 1848 et repoussant le drapeau rouge, bien sûr il y a ça, mais il y a tellement d'autres choses. Nous n'avons pas évoqué, par exemple, le problème de Lamartine devant Dieu, ou plus exactement, le Dieu de Lamartine. Il ne faut pas oublier que son recueil de 1830, Les Harmonies, s'appelle quand même Harmonie poétique et religieuse. Du coup, qu'est-ce qu'on en a fait? Eh bien, on a fait une religiosité lamartinienne. Cela n'est pas très juste. Qu'est-ce que c'est que le divin pour Lamartine? Alors ici, il faut se méfier, parce que Lamartine n'est pas un poète d'idées. C'est un poète du sentiment. Ce n'est pas non plus un théologien, mais c'est un homme, nous venons d'entendre le lac, porté par la nature, qui est en accord avec la nature, qui sent très très bien la nature, les forces naturelles, et dès lors on pourrait penser que le dieu de Lamartine est une sorte de dieu panthéiste. Flux et reflux divins de vie universelle, vaste océan de l'être où tout va s'engloutir, c'est ce qu'il écrit dans son poème « L'Occident ». Les choses sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus nuancées, encore une fois. En effet, lorsqu'il revient à la religion de son enfance, en 1820, et cela, Marius-François Guillard l'a souligné, c'est par un acte de volonté. Il se dit que, tout d'un coup, il importe dans cette société, dans ce siècle, dans ce mouvement où il est, de se raccrocher, de s'accrocher, plus exactement, à des idées fermes et sûres. On verra la même démarche, d'ailleurs, chez le jeune Victor Hugo, n'est-ce pas ultra-royaliste, par conséquent, se voudra ultra-catholique, et qui, cependant, n'est pas baptisé. Il y a donc là des contradictions. Chez Lamartine, c'est flagrant. Alors, il va pratiquer, il va être un poète catholique, bien sûr, mais on peut mettre en doute sa foi, enfin, en tout cas, du moins, sa foi profondément religieuse au sens du rite et de la liturgie. Sa foi théologique, si l'on peut dire. La preuve en est qu'en 1832, lors de son fameux voyage en Orient, eh bien, il va être absolument bouleversé, dans le mauvais sens du terme,
par la vision du Saint-Sépulcre. Il se dit comment ce n'est que ça. Ce serait un peu la réaction de Gogol, d'ailleurs, pour faire un petit passage chez les grands russes. Mais enfin, Gogol, à l'orthodoxie, il va revenir, ça va être autre chose. Abandonnons Gogol. Pour Lamartine, non. Ce voyage en Orient va marquer un tournant très important dans sa vie religieuse, dans la mesure où, encore une fois, cette incarnation, il n'y croit pas. Les lieux lui semblent médiocres. N'insistons pas trop, cependant, ce serait faux aussi. Il y a la mort de Julia. Alors, la mort de Julia, c'est l'intervention d'une injustice. D'une injustice de ce quelqu'un qui s'appellerait Dieu, si jamais ce quelqu'un existait. Dès lors, Lamartine va devenir plutôt rousseauiste. Il sera même anticlérical à la Voltaire. Et il va s'en aller, maintenir, en tout cas, avant de s'avancer vers une connaissance plus approfondie, vers le divin. Il aura, bien sûr, par son rapprochement avec la nature, par cette façon qu'il a de s'enraciner dans les choses naturelles, dans la beauté passagère des choses créées, un appétit du divin. Mais là, il faut le laisser parler.
Ah, que ne suis-je né dans l'âge où les humains, jeunes, à peine encore échappés de ses mains, près de Dieu par le temps, plus près par l'innocence, conversaient avec lui, marchaient en sa présence. Que n'ai-je vu le monde à son premier soleil? Que n'ai-je entendu l'homme à son premier réveil? Tout lui parlait de toi, tu lui parlais toi-même. L'univers respirait ta majesté suprême. La nature, sortant des mains du Créateur, étalait en tous sens le nom de son auteur. Ce nom, caché depuis sous la rouille des âges, en traits plus éclatants brillait sur tes ouvrages. L'homme dans le passé ne remontait qu'à toi. Il invoquait son Père et tu disais « C'est moi ». Longtemps, comme un enfant, ta voix daigna l'instruire. Et par la main, longtemps, tu voulus le conduire. Que de fois, dans ta gloire, à lui tu t'es montré, au vallon de Sénard, aux chênes de Mambré, dans le buisson d'Horeb, ou sur l'auguste cime où Moïse aux Hébreux dictait sa loi sublime. Ces enfants de Jacob, premiers-nés des humains, reçurent 40 ans la manne de tes mains. Tu frappais leur esprit par tes vivants oracles. Tu parlais à leurs yeux par la voix des miracles. Et lorsqu'ils t'oubliaient, tes anges descendus rappelaient ta mémoire à leurs cœurs éperdus. Mais enfin, comme un fleuve éloigné de sa source, ce souvenir si pur s'altéra dans sa course. De cet astre vieilli, la sombre nuit des temps éclipsa par degrés les rayons éclatants. Tu cessas de parler. L'oubli, la main des âges, usèrent ce grand nom empreint dans tes ouvrages. Les siècles en passant firent pâlir la foi. L'homme plaça le doute entre le monde et toi. Oui, ce monde, Seigneur, est vieilli pour ta gloire. Il a perdu ton nom, ta trace et ta mémoire. Et pour les retrouver, il nous faut, dans son cours, remonter flots à flots le long fleuve des jours. Nature, firmament, l'œil en vain vous contemple, hélas, sans voir le Dieu, l'homme admire le temple, il voit, il suit en vain, dans les déserts des cieux, de leurs 1000 soleils, le cours mystérieux. Il ne reconnaît plus la main qui les dirige, un prodige éternel cesse d'être un prodige. Comme ils brillaient hier, ils brilleront demain. Qui sait où commença le glorieux chemin? Qui sait si ce flambeau qui luit et qui féconde une première fois s'est levée sur le monde. Nos pères n'ont point vu briller son premier tour, et les jours éternels n'ont point de premier jour. Sur le monde moral, en vain ta providence dans ces grands changements révèle ta présence. C'est en vain qu'en tes jeux l'empire des humains passe d'un sceptre à l'autre, errant de main en main. Nos yeux accoutumés à sa vicissitude se sont fait de ta gloire une froide habitude. Les siècles ont tant vu de ces grands coups du sort. Le spectacle est usé. L'homme engourdi s'endort. Réveille-nous, grand Dieu, parle et change le monde. Fais entendre au néant ta parole féconde. Il est temps, lève-toi, sors de ce long repos. Tire un autre univers de cet autre chaos. À nos yeux assoupis, il faut d'autres spectacles. À nos esprits flottants, il faut d'autres miracles. Change l'ordre des cieux qui ne nous parlent plus. Lance un nouveau soleil à nos yeux éperdus. Détruis ce vieux palais, indigne de ta gloire. Viens, montre-toi toi-même et force-nous de croire. Mais peut-être avant l'heure où dans les cieux déserts, le soleil cessera d'éclairer l'univers. De ce soleil moral, la lumière éclipsée cessera par degrés d'éclairer la pensée. Et le jour qui verra ce grand flambeau détruit plongera l'univers dans l'éternelle nuit. Alors, tu briseras ton inutile ouvrage. Ces débris foudroyés rediront d'âge en âge, « Seul je suis. Hors de moi, rien ne peut subsister. » L'homme cessa de croire. Il cessa d'exister.
Enfin, ce qu'il y a de remarquable, je crois, chez Lamartine, et ce à quoi nous devons, bien entendu, succomber, c'est sa musique. Il y a une musicalité du vers lamartinien qui, malgré son imprécision, parfois malgré son ridicule, nous l'avons souligné, est inimitable. Cela se reconnaît. Il n'a pas la scansion souveraine de Victor Hugo, par exemple. Il n'a pas non plus l'impressionnisme abouti, pourrait-on dire, d'un Paul Verlaine. Mais il y a là, entre les deux, entre une sûreté maladroite, entre une sûreté de gentilhomme, devant le vers, devant sa structure, devant cette façon qu'il a de s'énoncer, et en même temps, ce vague perpétuel. Il prend les mots comme ils viennent, il n'en cherche pas, il n'y a pas de néologisme chez Lamartine. Il y a comme ça du vague, et ce vague est strictement uniquement musical, et je ne peux, pour conclure cette émission, que rappeler, que dire, qu'en poésie du moins, Lamartine n'est pas un auteur d'idées, mais un auteur du sentiment. Et, sous cette réserve, bien entendu, que dès lors qu'il est question de politique, par exemple, les deux sont mêlés, il n'est pas d'abord poète, ensuite politique, tout ça se mélange, il est politique en même temps que poète, alors que sa politique est quand même très ferme. Et tout ce qu'il perd peut-être en humanité, dans ces grandes harmonies, dans ces exemples du trop grand romantisme, eh bien, il le gagne, à nos yeux en tout cas, par les mérites qui sont les siens à la Chambre des députés et dans sa carrière d'homme providentiel, on pourrait dire. Car il ne faut pas oublier, comme providentiel, Lamartine a bien failli l'être.
J'ai vécu, j'ai passé ce désert de la vie où toujours sous mes pas chaque fleur s'est flétrie, où toujours l'espérance, abusant ma raison, me montrait le bonheur dans un vague horizon, où du vent de la mort les brûlantes haleines sous mes lèvres toujours tarissaient les fontaines. Qu'un autre, s'exhalant en regrets superflus, redemande au passé ces jours qui ne sont plus, pleure de son printemps l'aurore évanouie et consent à revivre une seconde vie pour moi, quand le destin m'offrirait à mon choix le sceptre du génie ou le trône des rois, la gloire, la beauté, les trésors, la sagesse, et joindrait à ses dons l'éternelle jeunesse. J'en jure par la mort, dans un monde pareil. Non, je ne voudrais pas rajeunir d'un soleil. Je ne veux pas d'un monde où tout change, où tout passe, où jusqu'au souvenir tout s'use et tout s'efface, où tout est fugitif, périssable, incertain, où le jour du bonheur n'a pas de lendemain.
Relecture, une émission d'Hubert Juin. Aujourd'hui, Alphonse de Lamartine. Avec la participation de Marius-François Guyard et Jean-Michel Garder. Texte lu par Guy Tréjean et Jean Negroni. Prise de son et mixage, Arlette Adrian et Bernard Astier. Assistante, Cécile Tranvan. Réalisation, Anne Lemaître.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 17 juillet 1981. Vous pourrez la réécouter en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Dinner is ended, the music is grand. Softly the lanterns gleam. Isn't it splendid to sit hand in hand, silently lost in a dream? Across the table, while the lights are low, though you hush your lips, your fingertips tell me all I want to know. Across the table meet so tenderly, and they say you.